وصحبه أجمعين. أمسينا ونسلم الملك لله، الحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous sommes en train d'aborder le thème les enfants des musulmans et les enfants des non-musulmans, des croyants, est-ce qu'ils seront au paradis ou en enfer. On a dit que la majorité des savants musulmans disent que les enfants des musulmans sont au paradis. D'accord ? Il y a quelques exceptions, il y a d'autres savants qui disent non, ils seront jugés aussi, ils seront éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la majorité des savants musulmans disent que quand un enfant musulman meurt avant l'âge de la puberté, il est au paradis. Et c'est pas simplement qu'il est au paradis, il sera aussi intercesseur pour ses parents. Si ses parents sont patients, acceptent le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet enfant, en plus qu'il sera au paradis, ben il sera un soutien, un intercesseur, shafir, hein? Shafir, ça c'est quelque chose qui clairement dit dans certains hadiths, pour ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec un groupe de femmes, quand il leur a consacré un dars pour elles, et donc certaines femmes ont dit, est-ce que ya Rasulallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a cité ce hadith, si quelqu'un a trois enfants, si une femme parmi vous perd trois enfants, qu'elle accepte et qu'elle patiente, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que ses enfants soient une garantie pour elle au paradis, pour le paradis, inshallah. Et une femme demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, et deux, parce qu'elle avait perdu deux, ya Rasulallah, et deux, il lui a dit, et deux, sallallahu alayhi wa sallam, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Et donc, on a un hadith qui dit, d'après Abu Huraira, et c'est un hadith dans le Bukhari, on peut trouver facilement, kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né, il naît selon al-fitra, Al-fitra, comment on peut la traduire? Al-fitra, c'est la nature primaire. Hein, chacun, et la nature primaire de chacun de nous, c'est la foi. La nature primaire de chacun de nous, c'est la foi, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la fitra. C'est croire en Dieu, croire en un être qui est puissant, créateur, le premier, le dernier. Ça, c'est la nature de chacun de nous. Et Allah a pris un engagement de chacun de nous avant notre création. Allah a pris les engagements des âmes. Alastu bi rabbikum qalu bala. Qalu bala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a posé cette question à tous, avant même notre naissance. Il a posé ces questions à nos âmes. Allah dit Alastu bi rabbikum. Hein? Est-ce que vous croyez en moi en tant que votre Seigneur? Et on a dit oui, ya Allah, nous croyons en toi en tant que notre Seigneur. Rabbuna. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils ont dit si, tu es notre Seigneur. Alastu bi rabbikum qalu bala. Donc, le hadith, il dit kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Fa abawahu, ses parents, donc chaque nouveau-né, il naît selon la nature primaire. Ses parents font de lui un juif, un chrétien, ou quelqu'un qui adore le feu, quelqu'un qui adore Bouddha, quelqu'un qui adore, en tout cas, ils font de lui quelqu'un qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala correctement. كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةِ هَلْ تُرَى فِيهَا جَدْعًا. Donc le prophète Azam, il donne un exemple par les animaux, mais c'est juste pour nous rapprocher des idées. Et donc il nous dit, chaque enfant, il naît croyant. Ici, ses parents qui font, après, dévier de la foi, parce qu'ils vont lui enseigner des choses qui vont le dévier de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi naturelle qui est en réalité la foi de l'islam. Parce que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, ils font de lui un musulman. Non, parce qu'il est musulman. Il n'a pas dit, ils font de lui un musulman. Il dit non, ils font de lui un chrétien, un juif ou un quelqu'un qui adore le feu ou quelqu'un. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ils font de lui un musulman ou un juif, ou un... ah non, on aurait dit, ah, il l'était pas avant. C'est ses parents qui l'ont. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils font de lui un juif, un chrétien ou quelqu'un qui adore le feu. Il n'a pas dit, ils font de lui un musulman, parce qu'il naît par nature. Par nature, nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'islam, c'est deux définitions. La religion musulmane, quand on dit, il est musulman, on a deux définitions. La définition de toutes les religions. En réalité, toutes les religions, c'est l'islam. Ibrahim était musulman. Muslim, hanifan muslim. Allah nous dit. Il n'y avait pas la religion musulmane à l'époque de Ibrahim. Mais il était musulman. Isa était musulman. Moussa était musulman. Dans le sens linguistique. C'est quoi le sens linguistique de musulman? C'est quoi être musulman dans la langue arabe? C'est se soumettre volontairement, hein, avec clairvoyance à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Moussa, il s'est soumis à Allah? Oui. Est-ce que Isa s'est soumis à Allah? Oui. Ibrahim, oui, c'était le... Houa sammakum al-muslimu. Houa, c'est Ibrahim qui nous a nommés les musulmans. Parce que lui, il était le premier soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre religion, en réalité, c'est la religion de la vérité. C'est la religion de tous les prophètes. Tous ceux qui ont suivi les prophètes, ben, étaient musulmans aussi. Wal-Bukhari, rahmatullahi alayhi, kama yaqul Ibn Hajar. Ibn Hajar, c'est lui qui a traduit, qui a expliqué le Bukhari. Vous avez un livre qui s'appelle Fath al-Bari, je ne sais pas si on l'a ici, hein, Fath al-Bari, fait Sharhi Sahih al-Bukhari. Le Bukhari, c'est un grand livre, il ne fait que des hadiths. Je vous ai dit la dernière fois que le Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait dans son livre? Ben, il a rapporté que des hadiths, mais il a fait des titres. Il a donné des titres pour chaque chapitre. Et ça, c'est la science de Bukhari. Comment il a regroupé les hadiths? Pourquoi il a mis ce hadith dans ce chapitre-là? Ça, c'est la science de Bukhari. Mais après, vous avez des grands savants, comme Ibn Hajar al-Asqalani. Asqalani, il est de la Palestine. Asqalani, Asqalani, c'est en Palestine. Ashkalon, aujourd'hui, ils appellent ça. Mais c'est Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, c'est un grand savant qui a écrit un très grand livre, Fath al-Bari, fi Sharh Sahih al-Bukhari. Il a expliqué tout le livre de Bukhari d'une manière très détaillée. Chaque hadith, tu trouves 5, 6, 7 pages pour chaque hadith. Hein, vous imaginez 5000 et quelques hadiths. Donc c'est pour ça que c'est vraiment plusieurs grands volumes de Sharh al-Bukhari. Donc, il dit, le Bukhari était mutawaqifan fi awlad al-mushrikin. Ça veut dire quoi? Bukhari ne voulait pas se prononcer concernant les enfants des non-musulmans. D'accord? Bukhari, rahmatullahi alayhi, avec sa grande science, il était mutawaqifan. Quand on dit mutawaqif, c'est-à-dire il ne veut pas se prononcer. Il s'arrête. Il dit à moi, ici, je ne dis rien. Je n'ai pas d'avis. Il y a beaucoup de savants qui sont comme ça, par modestie. Parce que ben, leur savoir s'est arrêté là, ils disent, maintenant, je ne sais pas. L'imam Malik aussi, il disait souvent, je ne sais pas. Et ça, ce n'est pas un défaut qu'un savant dit sur une chose, je ne sais pas. Regardez le Bukhari, il dit, mutawaqifan. Moi, je ne me prononce pas, je ne dis rien. Allahu a'lam. En plus, sur cette question, les savants n'ont pas l'obligation de se prononcer. Tu peux ne pas donner d'avis, parce que ça ne concerne pas notre vie de tous les jours. Ça concerne la foi, ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Et est-ce que les enfants des non-croyants seront au paradis ou en enfer? Est-ce que nous, ça, c'est une question légitime. Et est-ce que nous, ça induit quelque chose dans notre vie de tous les jours? Non, ça n'induit pas quelque chose de concret. C'est pour ça que certains savants disent non, ça, moi je préfère ne pas me prononcer. Et surtout, il y a quelque chose de très important, c'est que la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, musulmans, on croit en quelque chose qui est fondamental, c'est que Allah est juste. Allah subhanahu wa ta'ala ne ferait jamais quelque chose d'injuste, jamais. Inni harramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice. Je me suis interdit. Donc c'est interdit. Allah lui-même s'est interdit d'être injuste. Et au-delà de l'injustice ou de la justice, Allah est miséricordieux. Donc Allah Rahim. Donc si quelqu'un, il faut être certain, et ça apaise notre cœur, c'est d'être certain que personne n'ira en enfer si cette personne ne mérite vraiment pas l'enfer. Et beaucoup de personnes vont au paradis sans le mériter. Hein? Beaucoup de personnes vont au paradis sans vraiment le mériter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dans sa générosité, par sa miséricorde, il leur dit, allez au paradis. Hein? Prends la main de ton frère et va au paradis. Comme celui, on a un hadith qui dit, il y a un homme qui avait une seule hasana, une seule. Imaginez une seule hasana. Et il y a un autre qui lui manque une seule hasana pour aller au paradis. Et celui qui avait qu'une seule hasana, ça c'est la miséricorde d'Allah. On peut pas. Il dit, moi j'ai qu'une seule hasana, dans tous les cas je vais en enfer. Il regarde l'autre qui lui manque une hasana, il dit, tiens, prends ma hasana et va au paradis. Moi je suis, c'est déjà fichu pour moi, donc tiens, prends mon hasana. Et Allah, quand il a vu ce geste de la part de cet homme-là, il dit, prends la main de ton frère et allez tous les deux au paradis. Subhanallah. Tu dis, Laysa akramu minni. Oui, exactement. Allah a fait un commentaire dans le hadith. Il dit, tu ne peux pas être plus généreux que moi. Cet homme était généreux. Allah lui dit, tu ne peux pas être plus généreux que moi. Et un homme, dans un hadith, qui dit à ses enfants, quand je meurs, brûlez mon corps, dispersez mes cendres, une partie dans la mer, une partie dans les montagnes, une partie dans le désert, une partie en Sibérie. De telle façon que Allah ne puisse pas me ressusciter. Si vous regardez ce qu'il où il croyait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si ses enfants vont tout disperser, et tout, que Allah ne serait pas capable de le ressusciter. Mais il n'avait pas la bonne foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne connaissait pas Allah correctement. Allah ordonne à la terre, et ça c'est un hadith, et ça va se passer comme ça le jour du jugement dernier. Allah ordonne à la terre de donner ses cendres. Il ordonne à la mer de donner. Il ordonne aux montagnes et il regroupe cet homme, il le ressuscite. Allah est capable de tout ressusciter, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, c'est Allah, c'est notre créateur. C'est le Bari. Le Bari, c'est celui qui a créé de rien. Et donc, et cet homme est devant Allah. Et Allah lui pose la question, Abdi, oh mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Qu'est-ce qui t'a poussé d'agir comme ça? De dire à tes enfants, il dit, ya Allah, j'avais fait beaucoup de péchés. Et j'avais honte de te rencontrer. J'avais peur et honte de te rencontrer directement. Je me suis dit, si jamais ils font ça, ils peut-être... Yalaitani kuntu turaba. Le jour du monde dernier, beaucoup de personnes ils vont dire Yalaitani kuntu turaba. Ah, on ne sait jamais, j'étais juste de la terre. Lui, il voulait être turaba avant même de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith nous dit juste pour cette parole-là qu'il vient de dire. Ya Rabbi, khiftu. J'ai eu peur de toi. Allah lui dit, puisque tu m'as craint, de cette manière-là, va au paradis. Et cet homme-là sera au paradis. Subhanallah, tu te dis, la miséricorde d'Allah. Les portes du paradis sont dans les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas des juges. Mais on a des règles. Les règles, il faut les respecter. C'est que nous, musulmans, on dit, dans notre foi, c'est que celui qui meurt mouchrik ne sera pas au paradis. Ça, c'est la règle générale. La règle générale, c'est celui qui meurt musulman ira au paradis, même s'il séjourne en enfer un certain temps. Mais puisqu'il avait la foi, il finira par aller au paradis. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième, c'est celui qui, associé à Allah, qui était mouchrik, ira en enfer. D'accord ? Ça, c'est la foi musulmane. Il faut l'affirmer comme ça. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est, comme je vous ai dit, les menaces. D'accord ? C'est les menaces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le juge. Après, ce n'est pas à nous d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Isa alayhi salam, il l'a dit. Ya Rabbi, in tu'adhibhum fa innahum ibadu. Le jour du jugement dernier, Isa et son peuple, il dit Ya Rab, in tu'adhibhum fa innahum ibadu. Je ne peux pas être plus miséricordieux que toi. In tu'adhibhum fa innahum ibadu. Ils méritent. Wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al hakim. Donc c'est entre tes mains. Moi je n'interviens pas. Mais déjà, on n'a pas cette faculté, cette option d'intervenir dans les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah réalise toujours ses promesses. Allah peut ne pas réaliser ses menaces. Gardez ça bien en tête. Allah réalise toujours ses promesses. Quand Allah nous dit, tu fais ça, tu auras ça, hein, tu construis une mosquée, Allah te donnera un palais au paradis. Tu participes dans la construction d'une mosquée, Allah t'a promis un palais au paradis. Ça, c'est une promesse, ben, tu l'auras, c'est certain. D'accord ? Et Allah a menacé des choses. Le prophète a menacé aussi. Dans des hadiths, hein, certains font ça, voilà ce qu'ils vont avoir comme châtiment. Ces menaces-là, Allah peut ne pas les exécuter. Pourquoi ? Parce qu'il est miséricordieux. D'accord ? Donc ça, c'est des choses... C'est pour ça qu'on parle, il faut qu'on en parle, les savants parlent du sort des enfants des non-musulmans, des sorts des enfants musulmans. Nous, on cite les hadiths, on argumente, mais dans tous les cas, on sait très bien, nos cœurs sont apaisés. Parce qu'on sait qu'Allah est miséricordieux et qu'Allah fera toujours quelque chose qui est juste. Donc Al-Bukhari tawaqqafa fi awlad al-mushrikin wa qad jazama ba'da hadha fi tafsir surah ar-Rum min sahihihi bima yadullu ala ikhtiyar al-qawl as-sa'iri ila annahum fi al-jannah. Mais Al-Bukhari, quand il parlait de Sourate Ar-Rum, l'explication. Parce que dans le livre de Bukhari, vous avez un chapitre qui l'appelle Tafsir. Un chapitre qui concerne le Tafsir. Il regroupe quoi ? Il regroupe tous les hadiths qui parlent de Tafsir. De certains sourates. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le Tafsir du Coran entier. Il a fait certains. Et alhamdoulilah, les savants ont fait d'autres. Donc, il laisse entendre le Bukhari que les enfants des non-croyants, des non-musulmans sont au paradis. Il laisse entendre cela. Parce que la classification de ces hadiths laisse entendre cela. فَإِنَّهُ صَدَّرَهُ بِالْحَدِيثِ الدَّالِ عَلَى التَّوَقُّفِ ثُمَّ ثَنَّ بِالْحَدِيثِ الْمُرَجِّحِ لِكَوْنِهِمْ فِي الْجَنَّةِ. Donc il a commencé par le hadith qui dit on ne sait pas. Et après, deuxième hadith, c'est un hadith qui dit qu'ils seront au paradis. Donc, قد أخرجه البخاري في التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود. Donc il parle d'Ibrahim, le jour du jugement dernier, au paradis, Ibrahim est au paradis, et autour de lui il y a des enfants. Qui sont ces enfants ? Tout enfant qui meurt enfant, qui est né selon la fitra. فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين فقال وأولاد المشركين et aussi أولاد المشركين. Regardez Fath al-Bari, explication de Sahih al-Bukhari. وقال ابن حجر, ابن حجر العسقلاني, toujours hein, celui qui a fait l'explication de al-Bukhari. ويؤيد ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم. Le prophète sallam dit, j'ai demandé à mon Seigneur de ne pas châtier les enfants des Aulad al-Bashar. Aulad al-Bashar, c'est-à-dire les êtres humains. Les enfants qui meurent enfants parmi les êtres humains, de ne pas les châtier. Et Allah m'a donné cette demande. Allah a exaucé cette demande. Wa min tariq Khansa bint Muawiya bin Surayim an ammatiha qalat قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي قال صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. Et c'est pas une exclusivité. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il lui a demandé qui sera au paradis, il lui a dit les prophètes sont au paradis, les martyrs sont au paradis, les vrais martyrs sont au paradis, et les mauloud, les enfants, seront au paradis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça au paradis. Non, il y aura beaucoup d'autres personnes. Mais ceux-là, le prophète garantit qu'ils seront au paradis. Et ce hadith était un hadith hassan. Hassan, c'est bon. Donc on peut le prendre dans ce domaine. وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ خَدَمُوا أَهْلِ الْجَنَّةِ. Il y a un autre hadith qui laisse entendre que les enfants des mouchriquins, ils seront au paradis, mais comme serviteurs pour les gens du paradis. Donc, ils seront au paradis, mais ils vont être serviteurs, au service des gens du paradis. Donc ça, c'est un hadith qui n'est pas forcément connu, n'est pas dans Sahih al-Bukhari, mais c'est un hadith qui existe. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَقَوْلُ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْفَرَجِ إِبْنُ الْجَوْزِي وَالنَّوَوِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Nawawi, je vous ai raconté l'histoire de l'imam Nawawi, si c'est lui qui a fait Sharh Muslim. Regardez, vous avez le Ibn Hajar al-Asqalani, c'est le meilleur Sharh du livre de Bukhari. Et le meilleur Sharh, meilleure explication du livre de Muslim, c'est Nawawi qui l'a fait, l'imam Nawawi. Il a fait Sharh Muslim. Donc, Muslim, c'est un grand livre qui fait 7000 hadiths, qui l'a expliqué, mais Nawawi. Et de ce livre-là, il a écrit son livre Riyad al-Salihin, qu'on a tous. Donc, il a tiré Riyad al-Salihin de Bukhari et de Muslim. Et de Riyad al-Salihin, il a fait 42. Les 42 An-Nawawi, qui sont pour lui les meilleurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les domaines, les 40 hadiths de Nawawi. Inch'Allah, un jour, on va les expliquer ensemble, parce que c'est les meilleurs hadiths. Et c'est vraiment leur connaissance est essentielle. Donc le Bukhari Nawawi, il dit, et donc il dit, et c'est l'avis, le madhhab, le juste, le mukhtar, que j'ai choisi, que nous avons choisi. الذي صار إليه المحققون, celui qui a été choisi par les gens, les experts en quelque sorte. لقوله تعالى, là il cite un verset. Nawawi, il cite un verset. Et le verset c'est quoi? وما كنا معذبين حتى نرسل رسولا. Regardez l'engagement d'Allah dans le Coran Karim. Allah s'engage et dit وما كنا معذبين, et nous ne châtirons jamais. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى, jusqu'à, il dit, si, non, si on n'envoie pas un prophète. حَتَّى, c'est jusqu'à en arabe. Mais pour traduire la phrase correctement, d'accord, juste, il dit, on ne châtiera jamais. C'est une règle, hein, règle établie dans le Coran al-Karim. Nous ne châtirons jamais un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Et c'est ça la justice. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Donc si un peuple ne reçoit pas de message, il ne sera pas châtié. C'est l'engagement d'Allah. C'est l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Et comme je vous ai dit, ça c'est une promesse. Allah, comme je vous ai dit, ses promesses seront toujours tenues, toujours. Allah dit, je ne châtierai jamais un peuple sans lui avoir envoyé un messager, quelqu'un qui lui transmet le message. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de savants musulmans, quand ils parlent des grands-parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, hein, ou des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des gens qui, de Isa alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les Arabes avaient reçu un prophète?
Non.
Il n'y avait pas de prophète en Arabie. Et on les appelle comment? Les gens de l'Arabie qui ont vécu depuis Isa jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient jamais reçu un prophète. On les appelle Ahlul Fatra. Les gens de... Al-Fatra, c'est la rupture. Hein, la rupture, c'est-à-dire il n'y avait pas de prophète. Et beaucoup de savants musulmans disent Ahlul Fatra, c'est des gens qui n'ont pas reçu de message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah s'engage de ne pas châtier des gens qui n'ont pas reçu le message. Mais ça reste toujours, comme on a dit, la règle générale, c'est qu'un musulman fait confiance en son Seigneur. Allah est plus juste que moi. Allah est plus miséricordieux que moi. Et je suis certain que n'ira au enfer que celui qui mérite l'enfer, vraiment. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi nous vont au paradis alors qu'ils ne méritent pas le paradis vraiment. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait rentrer tous au paradis en réalité. Inch'Allah. Aqoulou, donc le Cheikh Omar Suleyman Ashqa, qui est un grand savant syrien, comme je vous ai dit, il dit, et moi je dis, c'est un savant, « Wa huwa al-qawlu alladhi rajjahahu al-Qurtubi aydan » Al-Qurtubi, je vous ai dit, le Qurtubi, c'est pratiquement parmi les premiers tafsirs. Il a appelé son tafsir « Ahkam al-Qur'an ». « Ahkam al-Qur'an », c'est aussi de plusieurs volumes. Et il a expliqué le Qur'an al-Karim. Il a fait le tafsir. Mais son tafsir, c'était un tafsir qui se base essentiellement sur le fiqh, la jurisprudence. Donc, il s'appelle « Ahkam al-Qur'an ». Al-Qurtubi dit cela. « Waqad waffaqa al-Qurtubi bayna al-nusus » Il a essayé de regrouper des textes pour donner cet avis-là. Et parmi les choses de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie jamais quelqu'un par l'erreur ou le péché de quelqu'un d'autre. Chacun est responsable de ses propres œuvres. D'accord ? Devant Allah, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Aucun homme ne portera le fardeau d'un autre homme. Si quelqu'un va te dire, fais ce péché-là, et moi, c'est moi que je prends sur moi, le shaytan dit ça parfois. Et à shaytan l'ins, pour beaucoup de shaytan l'ins, les shaytans des humains, ils te disent, fais-le, et si c'est haram, ah ben c'est moi qui porte. Mais, et si tu le fais toi, ben c'est toi qui porte. D'accord ? Lui, il t'a incité, il portera quelque chose. Mais toi, tu porteras la responsabilité tout entière devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. D'accord ? Lui, il t'a incité à faire le mal. Le fait de t'inciter à faire le mal, c'est un mal. Il sera jugé devant Allah pour ce mal-là. Mais toi, tu seras jugé devant Allah pour le mal que tu as fait. D'accord ? Et nous, ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que chez les chrétiens, ils ont quelque chose... Ils te disent que quand l'enfant il naît comment? Pécheur. Il naît sale. Hein? Directement, il naît déjà avec le fardeau et le péché originel. C'est quoi le péché originel? C'est quoi? Ben c'est le fait que Adam alayhi salam, vous imaginez, Adam alayhi salam a mangé de l'arbre. Ils te disent ça, Adam a transmis cette erreur à tous ses enfants. Et chaque enfant qui naît, il naît déjà avec quelque chose qui porte sur lui. Un péché qu'il n'a jamais fait et qu'il porte. Non, on dit non. L'enfant, il naît propre. Chacun, Adam a fait quelque chose, une erreur, un dhanb. Et qu'est-ce qu'il a fait Adam? Allah lui a rappelé tout de suite Adam, tout de suite. Shaitan, regardez, il a dit non, je ne prosterne pas et j'insiste. Adam, il dit Rabbini dhalamtu nafsi. Je me suis trompé, j'ai oublié et j'ai fait quelque chose. Et faghfirli. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Adam demande à Allah le pardon. Il sait ce qu'il a fait. Hawa, pareil. D'accord ? Ils ont assumé. Et ils ont demandé pardon. Et avant même de descendre sur terre, ils étaient déjà propres. Parce que Allah leur a tout pardonné. Faghfara lahu. Rabbi dit clairement dans le Coran, faghfara lahu. Donc comment un péché fait par Adam peut être... Et c'est pour ça que pour nous aussi, un enfant qui naît hors mariage. Vous avez beaucoup d'enfants qui naissent hors mariage. Ces enfants, est-ce qu'ils ont fait une erreur, eux? Ils n'ont rien fait. Pour nous, c'est nos enfants. D'accord? On ne va pas les... attention, lui, il est hors mariage ou les... Et surtout, il ne faut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui... Un enfant mesquine, ben, il est né hors mariage. Oui, c'est haram. Mais l'enfant, il doit assumer cette question. C'est ses parents qui assument devant Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être ils se sont repentis, et peut-être non. Mais en réalité, l'enfant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, hein, les savants musulmans en Europe disent que l'enfant, quand il est hors mariage, oui, c'est un acte haram. Mais si son père le reconnaît, ben, c'est un enfant légitime. Si son père le reconnaît, d'accord, il devient un enfant légitime. Même s'il est né en dehors du cadre du mariage, il reste un enfant légitime. Pourquoi? Parce que il a été reconnu par son père. Donc ça, c'est une question qui a soulevé beaucoup de discussions entre les savants. Mais le Conseil européen de la fatwa, il donne cette fatwa concernant les enfants qui sont nés hors mariage. Mais même si son père ne le reconnaît pas, même si cet enfant n'a pas un père connu, pour nous, il reste notre frère. Il n'a rien fait de mal. D'accord? Il ne portera pas le fardeau de son père ou de sa mère. Et on doit le traiter comme quelqu'un de normal. Parce que parfois, dans notre société, quand on voit, on dit « Ah, lui, attention, il n'est pas... » Ben non, subhanallah. Est-ce qu'il a fait un mal? Lui, il n'a rien fait. Donc, personne ne portera le fardeau d'une autre personne. « Wala tazilu waziratu wizra ukhra. » D'accord? فحكم بأنهم في الجنة وذكر في ذلك حديثا رواه عبد الرزاق ولكن الحديث ضعيف كما قال ابن حجر رحمة الله عليه ويشكل هذا التوفيق الذي ذكره ابن حجر أن المسألة ليست من مسائل النظر والاجتهاد ولكنها مسألة غيبية. Et c'est ce qu'on a dit. C'est peut-être cette question-là n'est pas une question juridique à traiter. C'est une question raïbiya, c'est-à-dire elle fait partie de la science de Dieu. Et ça ne produit pas quelque chose de concret dans notre vie de tous les jours. Donc on laisse hukmuha ila Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Certains savants musulmans disent qu'ils sont dans le mashi'a. Le mashi'a, c'est-à-dire dans le... Le mashi'a, c'est le choix divin. Allah subhanahu wa ta'ala, il les traite comme il sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Après, vous avez certains savants qui disent que ces enfants-là, Allah les éprouve. Le jour du jugement dernier, Allah leur donne une épreuve. Et s'ils réussissent cette épreuve-là, ils seront au paradis. Et s'ils ne réussissent pas cette épreuve-là, ils seront en enfer. Certains hadiths, ils disent, Allah leur dit, allez en enfer. Certains parmi eux exécutent l'ordre d'Allah et vont en enfer. Ils marchent vers l'enfer. Parce qu'Allah leur a demandé. Et les autres, qui refusent d'aller, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui ont obéi à Allah en allant en enfer seront au paradis. Et ceux qui ont désobéi à Allah en refusant d'aller en enfer seront en enfer. Ça, c'est un avis qui existe. Mais les savants musulmans, ils disent, nous, on sait que
Ce bas monde, c'est le monde de l'action, n'est-ce pas? Et l'autre monde, après la mort, est-ce que c'est un monde de jugement ou d'action? De jugement uniquement. L'akhira. L'akhira, c'est pas pour agir. On sait que l'akhira, c'est pas pour agir. Ça y est. Les actions, c'est dans ce bas monde. Donc, certains savants vont refuter et dire non, non, non. L'akhira, c'est pas un lieu d'épreuve. L'akhira, c'est un lieu de récompense ou de châtiment, de jugement. Dunya, c'est un lieu d'épreuve, d'action. Mais l'akhira, c'est pas un lieu d'épreuve. Wallahu a'lam. Donc, voilà, on a tout regroupé, tous les avis. On connaît quelque chose sur cette question, mais même si. Maintenant, miqdaru ma yadkhul al-janna min hadhihi al-umma. La quantité de personnes qui vont aller au paradis parmi la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yadkhulu min hadhihi al-umma al-jannata jumu'un kathir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Fa fi sahih al-Bukhari an Sa'id ibn Jubayr qala hadathani ibn Abbas qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. 'Uridat 'alayya al-umam. J'ai vu les nations. Allah m'a montré les nations. فأخذ النبي يمر معه الأمة. Un prophète qui passe devant moi. Regardez, donc tous les prophètes passent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes les voient sallallahu alayhi wa sallam. Il dit un prophète, il passe avec umma, hein, quelques personnes, ou une umma, c'est une nation, d'accord. والنبي يمر معه خمسة. Il y a un prophète et sa communauté, tous les gens qui ont cru en lui, c'est cinq. Un nabi avec cinq personnes. والنبي يمر وحده. Vous avez des prophètes qui vont passer tout seuls. Il a passé sa vie à appeler son peuple, mais personne n'a répondu à son appel. Il passe tout seul. Il n'a pas d'umma. والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد عظيم. Et je vois de loin, je vois une grande umma avec un noir énorme. C'est beaucoup, beaucoup de personnes. قلت يا جبريل هؤلاء أمتي. Donc bien sûr, ça s'est passé lors de l'Isra ou le Mi'raj, d'accord? Parce que c'est là où Allah a montré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. C'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans le ciel par la permission d'Allah, qu'il a vu des choses مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, parmi les signes de Dieu les plus grands. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Ya Jibril, haoulaï ummati. Est-ce que c'est ma communauté? Jibril dit non, ce n'est pas ta communauté. Mais regarde plutôt là-bas, al-ufuq, à l'horizon. Fanadartu fa'idha sawadun kathir. Et j'ai vu, je vois vraiment un noir énorme de personnes. Qala haoulaï ummatu. Ça, c'est ta communauté. Là, l'autre partie que tu as vue au début, ça, c'est les premiers de ta communauté qui vont aller au paradis. 70 000 personnes. Et ces gens-là, les premiers, ils vont aller au paradis sans aucun jugement. Les autres vont être jugés et aller au paradis, inshallah. Mais ceux-là, la première partie, c'est des gens qui vont aller au paradis sans aucun jugement. Ce hadith, on l'a déjà vu ensemble. Et certaines explications disent que la première communauté que le prophète a vue, c'est Banu Israël. Il dit non, celui-là, la première communauté, la grande communauté, c'est Moussa wa Qawmou. Et d'autres disent la première, c'est les 70 000 personnes qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi, qui sont de la communauté musulmane, qui vont au paradis sans aucun jugement. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة. Prophète صلى الله عليه وسلم avait un espoir d'espérer que la communauté musulmane soit la moitié des gens du paradis. Les musulmans soient la moitié des gens du paradis. فدans un hadith متفق عليه dans البخاري ومسلم d'après أبي سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة ما كومينوتي فكبرنا كنت بخوة صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده جوجور بار celui qui détient dans ses mains mon âme Allah J'espère que ma communauté sera le quart des gens du paradis. Et les compagnons disent Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Arjou an takuna thuluth ahli al-jannah. J'espère, je compte sur Dieu pour que ma communauté soit le tiers des gens du paradis. Ils ont dit Allahu Akbar. Faqal arjou an takuna nisfa ahli al-jannah. Inch'Allah, ma communauté sera la moitié des gens du paradis. Fakabbarna. قال ما أنتم في الناس إلا كشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam espère que... Et pourquoi? Parce que la communauté musulmane, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas juste Quraysh ou les premiers croyants. Ben, c'est tout être qui est devenu musulman depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à la fin des temps. Ben, c'est ça la communauté. Alors que la communauté d'Issa, qui est là, ou la communauté de Moussa alayhi salam? Est-ce que les juifs d'aujourd'hui sont la communauté de Moussa alayhi salam? Non. Moussa ne... Oh, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont la communauté de Issa alayhi salam? Non. Issa, quand il reviendra, Inch'Allah, il revient musulman. Il fera la prière des musulmans. D'accord? Et donc la communauté qui suit Moussa et Issa, c'est la communauté musulmane en réalité. Et Issa, quand il vient le jour du jugement dernier, il ne viendra pas avec les chrétiens d'aujourd'hui, il vient avec ceux qui l'ont suivi quand il est arrivé, et ceux qui l'ont suivi sur le chemin qu'il a tracé, la foi en Dieu l'unique. Il y a beaucoup de chrétiens arabes par exemple qui étaient sur la voie de Jésus alayhi salam, c'est-à-dire croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, et se prosterner. C'était des vrais croyants, croyaient comme nous. La foi, c'était la même. C'était les premiers chrétiens. Comme par exemple, est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Il s'appelle? Ouais. C'est le contraire. Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, vous vous souvenez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir, il est descendu de la montagne, et est venu voir Khadija, il avait peur, il vient de recevoir Jibril la première fois. Et Khadija, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle a pris la main, elle l'a pris de sa main, et elle l'a amené à son cousin. Et son cousin qui était Waraqa ibn Nawfal. Et Waraqa ibn Nawfal, c'était un chrétien, mais un chrétien sur le droit chemin. Un chrétien qui croit en Allah, le seul, subhanahu wa ta'ala, l'unique. Beaucoup de chrétiens étaient, mais ils étaient cachés, parce qu'ils étaient persécutés par les trinitaires. Quand la trinité est devenue le dogme officiel, ben, tous ceux qui croyaient en Dieu subhanahu wa ta'ala, sincèrement, sur la voie de Isa alayhi salam, ben, ils se sont cachés. D'accord? Donc, c'est ça, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est les gens qui suivent le prophète jusqu'à la fin des temps. Wa sirru fi kathrati man amana min ummati Muhammad. Quel est le secret? Le secret, c'est que chaque prophète, quand il reçoit un miracle, Issa avait des miracles. Allah lui a donné des miracles pour prouver qu'il était prophète et messager. Moussa avait des miracles, n'est-ce pas? Tous les prophètes. Ibrahim avait des miracles, tous les prophètes. Et quand le miracle, quand le prophète meurt, qu'est-ce qui se passe? Le miracle, est-ce qu'il reste ou il s'arrête, hein? Moussa est mort, son miracle s'est arrêté. Issa a été élevé, on ne dit pas Issa est mort. Issa a été élevé. Rafa'a, bal rafa'ahu Allah ilayhi. Allah nous dit, bal rafa'ahu Allah ilayhi. Allah l'a élevé auprès de lui. Issa n'est pas mort. Et donc, son miracle s'arrête, c'est arrêté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, sallallahu alayhi wa sallam est mort. Mat, fa'in mat ou quti. Sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Est-ce que son miracle il s'est arrêté? Non, son miracle est là entre nous, nos mains. Son miracle, c'est sa vie aussi. Son miracle, c'est l'islam. Et c'est le Coran al-Karim. Oui, ça c'est des miracles qui sont des miracles du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne peut pas aujourd'hui dire Inshiqaq al-Qamar, où la lune a été divisée. Ça, c'était des choses à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a un miracle qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le Coran al-Karim. C'est pour ça que nous sommes musulmans. Et c'est pour ça que les gens deviennent musulmans, par nous, après nous, nos enfants, parce que Allah l'a laissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma min nabiyyin min al-anbiya illa qad u'tiya min al-ayat ma mithluhu amana alayhi al-bashar » Chaque prophète, Allah lui a donné un miracle pour prouver aux gens qu'il était un prophète, messager, et pour que les gens croient. « Wa innama kan alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayhi bi » Mais Allah m'a donné quelque chose de particulier. Wahi, une révélation qu'Allah m'a révélée. Wa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyam. J'espère que je serai le prophète le plus suivi le jour du jugement dernier. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça serait comme ça. Très bien, Inch'Allah, on s'arrête ici. Et la prochaine fois, on va parler de Sadatu Ahli Jannah. Sadatu Shabab al-Jannah et d'autres qui sont les célèbres, les gens célèbres au paradis. Hein. Pas que la célébrité ici n'a aucune valeur là-bas, hein, comme Bilal ibn Rabah, comme Hamza ibn Abdul Muttalib. Hein. On va voir, il y a des gens en particulier qu'Allah a élevés, Allah leur a donné une place importante au paradis. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.